Da vil jeg sånn.
Løs
er ikke løs. Den kjørsakjøyen, kjørsakjøysatsen var?
Si vous pouvez éteindre vos téléphones portables ou en tout cas les mettre sur le mode avion, parce qu'il y a toujours des personnes sensibles avec les ondes. Hein. Merci vraiment d'y penser.
Non,
parce que là on parle des possibilités de confusion. Donc le mam dit ne pas éteindre son téléphone est une source de confusion. Voilà, non bref. Donc là on en arrive aux 10 possibilités de confusion. Donc.
Non,
alors première instruction, il est possible de confondre le désir et la foi. Voilà, eh bien, il y a donc cette possibilité, là c'est assez clair, entre une foi qu'on peut ressentir à l'égard des trois rarités sublimes ou des maîtres spirituels, et puis quelque chose de l'ordre du désir à l'égard de ces trois rares et sublimes émettes
spirituels.
En fait, ce qui permet vraiment bien de les distinguer, c'est finalement sur la longueur, parce que la foi est quelque chose de très profond et qui, au fur et à mesure du temps, va s'affermir et grandir. Le désir, c'est autre chose. Le désir peut apparaître comme une sorte de foi, mais dans ce cas-là, si quelque chose dans l'objet de son désir finit par ne plus être en accord avec nos attentes, eh bien, on voit alors, on pourrait dire attraction, eh bien, diminuer. Et c'est là le signe, en fait, qu'en fait, nous attendons quelque chose pour nous, et c'est ce non-accomplissement de nos attentes qui, tout à coup, nous déçoit. Ensuite, il est possible de confondre l'attachement et l'amour compassionné. Ensuite, il est possible de confondre la vacuité conceptualisée par l'intellect et la vacuité qui est la vraie nature de tout objet de connaissance. Vous voyez, vous comprenez ça? L'idée, c'est qu'en fait, quand on parle de tout objet de connaissance, en fait, tout phénomène, tous les phénomènes, leur nature propre, on pourrait dire, c'est d'être libre d'existence propre, c'est-à-dire d'être vacuité de toute éternité en quelque sorte.
Mm-hmm.
l'argent. Et une vacuité, on pourrait dire intellectualisée ou conceptualisée, eh bien, c'est l'idée que les choses sont vacuités. On pourrait s'imaginer, on se dit, tout est vacuité. Et on s'imagine alors être dans quelque chose de l'ordre de la contemplation de la vacuité, ce qui est autre chose. Mais bien sûr que quand on parle par exemple de méditer la vacuité, déjà là on est dans une incohérence, c'est-à-dire que en fait dès qu'il est question de méditer quelque chose dans le sens d'un objet, bien on est à côté du sens même de la vacuité évidemment. Oui, le problème dans le sens de la limite, hein, simplement, de la représentation intellectuelle de la vacuité, c'est que finalement, elle nous fait opter pour une position d'une certaine manière. Soit avec une affirmation de la vacuité en disant « la vacuité est », dans ce cas-là, ça serait aussi une forme de matérialisation, et c'est une extrême. Ou alors, une autre affirmation qui serait « alors, les choses ne sont pas ». Ce serait aussi une possibilité d'extrême dans le sens d'une forme de nihilisme. Et dans ce cas-là, c'est la limite de la représentation intellectuelle.
Alors,
on peut considérer, dit Lama, que pour, on pourrait dire, méditer la vacuité, on emploie quand même cette expression, eh bien, il faille certainement placer l'esprit dans un état de non-distraction. Pourquoi ? Parce que cela fait penser à cette instruction de Tilopa où il dit « laisse la manifestation, on pourrait dire, se résoudre ou demeurer en ce qu'elle est, telle qu'elle est. » Dans le sens où finalement, quand on dit la manifestation, c'est tout ce qui apparaît à notre conscience, que nous percevons, finalement tout cela est je, manifestation de l'esprit. Et donc, en fait, simplement reconnaître l'essence même de cela qui apparaît en notre conscience, c'est en quelque sorte reconnaître la vacuité inhérente.
Non.
Parce qu'en fait, ultimement parlant, il n'y a pas une manifestation hors du jeu de la conscience ou un jeu de la conscience hors de la manifestation. Oui, et encore une fois, le Hridaya Sutra, ou le cœur de la sagesse transcendante, qui est un texte fondamental, récité et pratiqué d'ailleurs par toutes les écoles bouddhistes du Mahayana, hein, eh bien, l'indique aussi de manière claire. Il y a cette fameuse parole, on l'a vu hier d'ailleurs, en disant Tongpani Zukso, ça veut dire la vacuité est les formes dans le sens de toute expérience du sensible, il n'y a pas d'autre vacuité que ces formes. En disant, il n'y a pas une autre vacuité, on pourrait dire, au-delà de ces formes manifestées que nous percevons, mais il n'y a pas non plus de formes manifestées que nous percevons hors de la vacuité, manière de dire qu'elles sont intriquées. Donc très certainement, dit Lama, pour percevoir cela, on parle de non-distraction, dit-il, dans le sens où quoi qui s'élève dans l'esprit, dans la conscience, donc au moment même où cela s'élève, en contempler l'essence qui elle-même est libre d'existence propre, c'est cela qui mène à la contemplation de la vacuité.
Bien.
Ok. Bon, c'est profond, hein, ce point, mais bon. Ce qu'il faut essayer de comprendre, dit Lama, c'est qu'en fait, la contemplation de la vacuité, c'est pas une idée qu'on se fait. C'est simplement un état de non-distraction et une vue, on pourrait dire, directe de l'essence même de cela qui est en train de se manifester, c'est-à-dire toutes nos pensées, finalement, et les phénomènes mentaux. Ce n'est pas une idée en se disant « c'est la vacuité » et je m'installe dans une représentation mentale que j'ai de la vacuité. C'est deux choses très différentes.
Voilà.
Alors après, avec l'instruction qui vient, on est à peu près dans le même cas de figure. Il est possible de confondre, on pourrait dire, le néant dans le sens d'une sorte de nihilisme et la sphère de toute connaissance, c'est-à-dire le domaine, c'est encore très compliqué ça, mais le domaine de la manifestation de tout phénomène. Bon, mais voilà, c'est comme ça. Il est possible aussi de confondre une simple expérience, une expérience spirituelle, et la réalisation. Là, vous voyez, c'est clair, ça? Oui, il y a un tir. Voilà, donc la distinction, elle se fait entre, d'un côté, les expériences et d'autre côté, la réalisation. Donc, les expériences, c'est à partir du moment où nous sommes dans un processus de méditation, quel qu'il soit, ils vont s'élever des expériences. Par exemple, des expériences de vacuité. Par rapport à ça, il y a un fameux dicton qui nous dit bien que les expériences sont, dans leur nature même d'expérience, extraordinairement variées et multiples. On dit, dans l'esprit, dans la conscience du yogi, toute expérience peut s'élever. De la même manière, en été, toutes sortes de plantes et de fleurs peuvent pousser. Parfois, il peut y avoir vraiment des expériences de félicité, de bonheur inouï, à tel point qu'on se dit c'est bon, ça y est. Voilà. Ça peut s'élever.
Non.
Et parfois, il peut y avoir ce qu'on appelle... Quoi ? Non ? Ah non, c'est pas fini l'explication du tout. Non. Il peut y avoir parfois des expériences qu'on appelle tsungnyam, c'est-à-dire vraiment de perturbation, où on a l'impression que... Non. Oui, sans aucune raison d'avoir des grandes colères, d'avoir de la haine qui s'élève, on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi cela s'élève. Puis là, à ce moment-là, on peut se dire, ben voilà, j'ai perdu toute ma méditation, de façon à quoi ça sert, je ne comprends plus rien. Et ça, c'est aussi des expériences. Puis de temps en temps, dans le processus méditatif, on fait des expériences de clarté. On a vraiment l'impression que les choses sont très très claires.
Voilà.
Voilà, mais donc c'est bien pourquoi, d'abord il faut nous souvenir que toute la nature de ces expériences, et quelles qu'elles soient ces expériences, elle fait que, cette nature fait que rien n'est stable et définitif. C'est vraiment que temporaire. Les expériences, elles sont temporaires. C'est pourquoi, encore et encore, on revient toujours, dit Lama, sur, et c'est un conseil que je donne aussi tout le temps, en rappelant l'importance de ne pas s'attacher, de ne pas saisir ces expériences, ni en se disant que c'est extraordinaire, ni en se disant que c'est désastreux.
Non.
Il y a un autre, on pourrait presque dire, pour exprimer le fait de la non-stabilité de ces expériences, où l'on dit les expériences sont comme des nuées, et des nuées dans le sens des phénomènes atmosphériques qui se manifestent et aussitôt ils se dissipent. Voilà, donc là dans l'instruction, on fait la différence entre d'un côté les expériences et de l'autre côté la réalisation. Et là, la réalisation, on dit, elle est semblable à l'espace. C'est-à-dire l'espace pour dire ce qui n'est pas les phénomènes atmosphériques des nuages. L'espace, c'est tout le temps le même d'une certaine manière dans l'image. Et donc, quelque chose qui est très stable et définitif, à la différence des expériences qui sont très temporaires.
Tenez.
Non. Ici, quand on parle de topa, de réalisation, c'est pas du tout de l'ordre de l'expérience. On parle de l'expérimentation de la nature de l'esprit. Donc on n'est pas dans un état mental, on est dans une expérimentation de la nature de l'esprit.
Non.
Ensuite, certainement on pourra revenir à la question après que tu voulais poser, Alain. Quoi qu'il en soit, l'instruction d'après, il est possible de confondre entre les hypocrites et les êtres très saints. Non. Ici, Tsunpo, Tsunpa, c'est vraiment l'excellence dans le sens de, oui, bon, eh bien, l'excellence spirituelle, par exemple.
Pendant la langue Nyamne, Tanda.
Quelle que soit la pratique spirituelle dont il est question, c'est l'excellence, par exemple, dans l'engagement, la manière de tenir un certain engagement dans une certaine pratique, par exemple. Non. Alors, Tsultu, c'est le trompeur,
c'est l'escroc.
Mais c'est l'escroc dans le sens, c'est pour ça qu'on l'utilise ici dans un sens spirituel, parce que c'est la personne qui se fait passer pour l'être excellent qu'elle n'est pas, autant dans son comportement, qui a l'air impeccable, rien à redire, tout comme dans la manière dont il dit les choses, dont cette personne dit les choses, mais c'est vraiment que de la prétention en vue de tromper autrui. Non, mais c'est difficile à débusquer parce que ce sont des individus qui vont réussir à faire passer ce qui est en fait complètement erroné et mensonger comme de la vérité. Mais ils sont très habiles, ce qui fait que ce qui est dit apparaît comme incroyablement vrai.
Non.
On en a, je crois, parlé hier déjà de ça. Mm-hmm.
Non. Tiens, non, il a quelque
chose. Vous vous souvenez, hier, on a parlé de cela et en rajoutant cette image du faux méditant, finalement, qui prend la pose comme un singe. Eh bien, finalement, c'est de cela dont il est question. Là, pourquoi la source. Ou pourquoi possibilité de confusion? Parce que franchement, ça y ressemble beaucoup. C'est-à-dire, si les choses sont très dissemblables, on peut parfaitement distinguer. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que vraiment, de l'extérieur, on ne repère pas tout de suite. Alors, il y a une chose assez surprenante, c'est certainement un trait de l'époque, dit Lama, c'est que, bon, bien sûr, avant, j'ai pu constater que ça existait, évidemment, mais il semblait que, eh bien, de tels individus, leur activité n'avait pas une gigantesque portée. De nos jours, c'est carrément étonnant. Il peut y avoir des individus qui trompent les autres, mais avec une efficacité redoutable.
Non.
Alors, et en Occident, cette caractéristique est tout à fait surprenante, parce que c'est même assez compliqué de comprendre comment les deux peuvent aller ensemble. C'est-à-dire d'un côté, alors toute évidence, l'Occident se manifeste aussi par son excellence dans les éducations. Donc les enfants, dès le plus jeune âge, vont à l'école, apprennent à réfléchir. Le niveau de connaissance est tout à fait remarquable, vraiment. Et d'un autre côté, on dirait que la propension à croire à des choses hallucinantes, elle est malgré tout assez élevée. Il y a eu, par exemple, dans le Vercors, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a eu un ensemble de suicides de personnes qui avaient suivi les paroles d'un gourou, leur parlant d'un transfert vers Sirius, je crois que c'était ça à l'époque. Ça, c'est une chose assez surprenante. C'est-à-dire que le décalage entre un niveau d'éducation et d'esprit critique tout à fait développé, et de l'autre côté, une capacité à croire à des choses qui, franchement, apparaissent quand même comme aberrantes. Alors, honnêtement, c'est quand même là une espèce de différence complètement étonnante.
Donc, du coup,
il faut, disons, vraiment être prudent. Et là, il y a quelque chose à en retirer pour nous. C'est-à-dire que ce soit à l'égard d'une activité ordinaire ou à l'égard d'une pratique spirituelle, il ne nous faut jamais faire l'économie de notre intelligence. Toujours remettre les choses en question, réfléchir. Ce n'est pas parce que le discours a l'air attrayant qu'il faut le prendre de but en blanc. Quoi, disons comme cela, sans question.
Je
me rappelle d'une fois où il y a bien longtemps, à l'époque, c'était il y avait deux traducteurs, un qui s'appelait Tachi et l'autre Rosemary, et donc ça fait vraiment bien plus de 30 ans. J'étais parti à Lyon et là on m'avait parlé d'un monsieur qui avait l'air d'être un maître spirituel extraordinaire. Je ne sais pas exactement ce qu'il faisait, plus ou moins peut-être une forme de pratique de zazen, quoi. Bon, bref, on me l'avait présenté comme quelqu'un d'exceptionnel qui donnait un enseignement auquel j'étais plus ou moins invité à me convier, à m'associer.
Non.
Et puis l'idée, c'était une forme de table ronde avec donc une forme de tournus. Et puis on me dit à un moment donné que donc voilà, cette personne parlera. Puis ensuite, j'aurai une quinzaine de minutes pour dire quelque chose. Puis ensuite, voilà, une sorte de tournus. Donc, bon, a priori, cette personne avait l'air plutôt avenante, plutôt l'air d'être bon, contente de cette situation. Et donc voilà, bon, donc je fais mes 15 minutes et puis après on fait comprendre qu'en fait la réaction de cette personne c'était de dire que en fait lui était détenteur d'un très ancien enseignement bouddhiste et que ça, ce que l'on venait d'entendre donc de la part de, du lama tibétain était un enseignement finalement très neuf. Oui, voilà, une sorte de tradition d'un Bouddha très neuf, très récent. Et c'était étonnant parce que dans la salle, il y avait des personnes qui a priori étaient des étudiants et qui avaient manifesté en disant « Mais non, mais ce que vous dites, c'est pas correct. » Non, voilà, bon, c'était pas problématique plus que cela, ça s'est bien passé pour nous, mais voilà, il avait une forme d'assurance dans l'affirmation de quelque chose qui, pour la vie des autres, semblait quand même douteux. Puis après, bon, en me rendant compte que c'était un peu compliqué quand même, je lui ai dit, ok, non, non, mais pas de problème, oui, c'est une tradition très nouvelle. Alors voilà, bon, ce genre de situation, c'est assez, finalement, ça peut être courant. Mais le point pour nous, toujours, c'est quand même donc de ne pas laisser de côté notre capacité de réflexion et de réfléchir aux choses qui sont dites.
Non,
c'est OK, hein, sur ce point, ensuite, il est possible de confondre le fait d'être entraîné par les démons, là, le lama expliquera, et la fin des illusions. Pas évident pour nous, mais Tulsik, c'est vraiment quelqu'un qui, vraiment, on pourrait dire, a complètement détruit toute illusion et qui donc est un, ce qu'on appelle en tibétain un Togden, c'est-à-dire quelqu'un qui possède une vraie réalisation. Non. Et qui donc peut vraiment faire tout de travers dans le sens de l'inconvenance et il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'il est au-delà du jeu des illusions et des apparences, donc totalement libre de tout. Par exemple, Tilopa, hein, quand même fondateur de la lignée Kagyu, et qui est représenté sous les traits d'un pêcheur qui a attrapé donc des poissons en Inde, d'une très basse caste, etc. On peut penser aussi au Mahasiddha, au grand accompli Shawaripa, qui était un chasseur, quoi, qui vivait sous les traits d'un chasseur. Et Tilopa qui prenait les poissons, qui les mettait en bouche, qui les dévorait ainsi, qui d'un claquement de doigts, hop, transférait leur conscience en une terre pure.
N'est pas yore. Tout chavarre pas 50 de tenin, on va 그룹 chenpo chigla kata ni pombo la tani yon chuyla juyak to tali yon rendur chebe lo juyori.
Non, et Shiawaripa qui était en fait à la tête d'une sorte de groupe de chasseurs. Et comme souvent, ces histoires de grands Mahasiddha ou de Mahasiddha grand accompli, eh bien, c'était aussi une manière de pouvoir aider à ce que ces autres chasseurs, donc ces chasseurs, atteignent l'éveil et donc d'interagir avec eux. Non. Et puis alors, il y a donc des épisodes toujours dans ces récits qui sont aussi édifiants. Et à un moment donné, le chef de ces chasseurs montre qu'il est très adroit et qu'avec une flèche, il peut tuer jusqu'à 5 biches ou cerfs, n'importe. Et donc, dans cet épisode, eh bien, Shiawaripa montre qu'en fait, lui est bien supérieur à cela. Il lui dit, et donc c'est une forme de défi qu'il lui lance, et il lui dit, mais moi, je peux en tuer 100 avec une seule flèche. Non. Et donc, il produit une illusion. En fait, c'est un mirage. Il produit une illusion où l'on voit alors une centaine, 100 cerfs ou biches, et avec une seule flèche, eh bien, il les atteint, et donc, il produit cela par le biais d'une illusion. Non. Et l'histoire raconte que forcément, eh bien, le chef de cette bande de chasseurs bien, est très impressionné par l'adresse extraordinaire de Shiawaripa et lui dit, mais comment fais-tu cela? Et en fait, par ce moyen, Shiawaripa progressivement l'introduit à la pensée du Dharma et petit à petit, eh bien, tous ces chasseurs abandonnent leur métier, on pourrait dire, ou leur activité plutôt de chasseur, et deviennent eux-mêmes des pratiquants à la suite de leur maître. Non. Voilà, il y a beaucoup de ces histoires de grands accomplis qui vont aller à l'encontre des convenances et aussi dans l'ordre de la vie spirituelle. C'est-à-dire si tout à coup il y a un arbre qui est considéré comme un arbre sacré qu'il ne faut surtout pas toucher parce que il est d'une certaine manière, on pourrait dire, tabou. Donc lui, eh bien, il va venir, il va le trancher. Manière de pouvoir dire qu'il est libre aussi du jeu des illusions. Ou alors, tout à coup, il est question de ce qu'on appelle les châteaux. C'est une espèce d'hôtel qui est dédié à une entité. De nouveau, il n'est pas question de maltraiter ce lieu. Et lui, il arrive, il casse tout. Manière encore une fois de prouver qu'il est au-delà de tout ça.
Non,
il y a aussi des grands accomplis qui vont attraper un mouton, tuer le mouton, manger le mouton, ensuite récupérer tous les os et les mettre dans la peau, et ensuite, d'un claquement de doigts, hop, le mouton se reconstitue et il part.
Non, voilà.
Chaque fois, ce que cela représente dans ces vies édifiantes des grands Mahasiddha, c'est le fait d'être libre du jeu des illusions. Et donc, dans ce cas, bien forcément qu'ils adoptent des comportements qui sont souvent transgressifs. Ça peut être l'abus d'alcool, ça peut être la consommation de viande, n'importe tout ce qui va être à l'encontre des règles d'une société à un moment donné. Mais c'est une manière de dire qu'ils sont libres, justement, de toute illusion. Et donc, ils le montrent de cette manière-là.
Non.
Alors, Duthiel, pour faire la différence entre ces deux cas de figure ici, Duthiel, c'est celui qui a, littéralement parlant, reçu la bénédiction d'un démon et qui, par cette influence, en fait néfaste, est protégé temporairement.
Non.
Donc,
Donc
là, c'est très différent parce que ça illustre aussi l'impact des actes sur l'individu. C'est-à-dire, celui qu'on appelle Duthiel, c'est quelqu'un qui bénéficie, on pourrait dire, d'un pouvoir, par exemple d'une force, et il peut alors produire, on pourrait dire, des prodiges de ce type, mais en fait, pour lui, ses actes, s'ils sont négatifs, restent négatifs, parce qu'il n'est pas du tout libre des illusions, mais il se joue, en fait, de la confiance d'autrui en s'appuyant sur un pouvoir, il usurpe d'une certaine manière le pouvoir qu'il prétend avoir. Voilà, donc que nous dit ici Gampopa, c'est qu'il est possible de se tromper. C'est-à-dire qu'il est vraiment parfois difficile de distinguer, si l'on n'y réfléchit pas, entre quelqu'un qui semble avoir des grands pouvoirs et qui en fait n'est qu'un manipulateur, et quelqu'un qui par ailleurs a des grands pouvoirs, mais est profondément sincère et ce qu'il montre est authentique.
Non.
Oui. Non. De la même manière, on parle parfois de la possibilité de pouvoir montrer la vacuité, comme une espèce de révélation en fait. Mais si l'on n'a pas la préparation qu'il faut, et qui se fait encore une fois, comme on l'a mentionné ce matin, par le biais de l'écoute et de la réflexion, quelqu'un d'un peu simple qui voit cela sans beaucoup de préparation peut complètement comprendre cela de travers. Donc, c'est toujours délicat.
Non.
Bah, par exemple, ça fait penser à Kenpo Kangsha, qui était vraiment un très très grand érudit du temps passé. Non. Et donc, un jour, il donne un enseignement, comme souvent cela se faisait, ce qu'on appelle des instructions sur l'esprit, des instructions très directes. Voilà. Et puis, il dit donc aux personnes qui écoutent ces instructions, il leur dit, alors voilà, prenez une position de méditation, le corps bien droit, voilà, la colonne vertébrale bien droite. Et puis, avec la bouche légèrement ouverte. Et puis donc, il y avait là... Et donc, il y avait parmi eux, il y avait un aveugle, et bon, c'est pas tellement le fait qu'il soit aveugle d'ailleurs, mais parce que cette instruction est une des instructions de la posture de méditation. Mais lui, il la comprend justement un peu de travers, et puis il pense qu'il est question d'ouvrir la bouche pour recevoir quelque chose. Donc, il se met à ouvrir la bouche en pensant qu'on va lui mettre quelque chose dans la bouche. Non. Et puis, c'est toujours avec le Kenpo Kangsha, l'enseignement se termine, et puis, voilà, une personne arrive chez elle, a priori, et là, elle tue un mouton.
Non.
On peut imaginer qu'il y a un groupe de personnes avec lui ou avec elle. Et puis tout le monde réagit en se disant non mais attends, c'est hallucinant, on vient de terminer un enseignement, t'arrives, tac, tu vois un mouton, tu le tues, mais c'est complètement incohérent. C'est pourquoi? Et à ce moment-là, il lui dit mais c'est pas moi qui suis fou, c'est vous, que vous êtes tous fous. Et il dit, c'est vous qui êtes fou, parce que vous n'avez pas entendu l'enseignement là du maître il y a un instant, Je n'existe pas, on est d'accord. Donc le mouton n'existe pas. Et donc moi qui suis en train de couper le mouton n'existe pas. Donc rien n'existe.
Someone should write this as that.
Tout est illusion, non? Voilà, il y a plein d'histoires comme ça, mais qui disent justement qu'on peut complètement se tromper sur le sens des choses dites.
Non,
voilà, alors après on reste dans le même cas de figure, parce qu'il est possible de confondre entre les imposteurs et les êtres réalisés.
Non.
Alors voilà, de nouveau le Tuptop, hein, c'est le mot pour le Mahasiddha, c'est le grand accompli ou la grande accomplie. Et puis ici, Sokpo, ben, c'est le trompeur. Et ben, de nouveau, on est dans le même cas de figure. On peut se faire passer justement pour ce grand accompli, on en prend tout l'aspect, mais l'on ne l'est pas. En fait, c'est aussi... Voilà une possibilité de confusion. Il y a aussi là une idée comme quoi le Tuptop il est capable, on pourrait dire, d'activités miraculeuses en fait. Mais le Sokpo, d'une certaine manière aussi, bon, ce n'est pas tout à fait des miracles, mais il peut faire passer des faits extraordinaires pour des miracles. Autre possibilité de confusion, c'est qu'il est possible de confondre entre son intérêt propre et l'accomplissement du bien d'autrui. Alors ça, c'est des choses que vous comprenez beaucoup mieux.
Ça.
Non, hein, comprenez ça. Non, hein, vous le comprenez comment ça, dit Lama.
Non.
Du coup, c'est moi qui dois répondre. Sans la peine, t'as pas un peu la peine. Pendant ce qui est de samne, il y a un grand rang, un bougla, un indu, un rang, un nyargé, un chilo, un chilo. Voilà, alors, bon, là, ce que je répondais n'est pas tout à fait ça, dans le sens où Lama me dit, c'est pas que de l'ordre de la pensée. C'est par exemple quelqu'un face à une vaste assemblée ou un groupe, n'importe. Non. Donc, alors là, la pensée, elle intervient dans le sens où finalement, c'est quelqu'un qui manifeste à l'extérieur une espèce de très vaste activité. On pourrait, pourquoi pas une activité humanitaire, hein, ça pourrait être du genre. Non. En général, là, dans cette cas de figure, on va retrouver des politiciens, on va retrouver des marchands. Oui, et là, on retrouve le politicien ou la politicienne dans le sens de « Regardez ce que j'ai fait pour vous, mais quand même, et puis voilà, celui-là, je l'ai aidé, et puis, ou alors, je vais privilégier celui-là parce que ça va m'apporter plus d'avantages qu'un autre. » Bon, voilà, c'est tout le calcul à travers, pourtant, une activité qui semble altruiste. Tout le monde peut se retrouver impliqué là-dedans, hein, politicien, marchand, mais aussi lama, moine, nonne, personne n'échappe à ça, hein. dans le sens où on peut carrément, largement se tromper, justement, encore une fois, entre une activité véritablement altruiste et des activités qui, finalement, ne sont là que pour rapporter des bienfaits à celui qui l'a produit. En fait, si on veut vraiment être totalement altruiste, ça veut dire qu'intérieurement, l'on doit avoir, être totalement libre de tout intérêt personnel.
Non.
Voilà, alors bon, ça c'est l'idéal. Ça serait le sommet de l'activité altruiste, ça serait d'être totalement libre de cet intérêt personnel finalement. Et donc d'avoir abandonné cela. Mais sinon, après, bien sûr, il y a aussi manière et manière de faire avec plus ou moins d'adresse. Non. Ensuite, autre possibilité de confusion, c'est possible de confondre entre les moyens adroits et, encore une fois, la tromperie ou l'escroquerie. Là, on est un peu dans le même cas de figure, parce que tap kepa, c'est vraiment les moyens habiles, et c'est un terme pour désigner des situations, des stratagèmes, en fait, hein, en quelque sorte, mais un stratagème très bien orienté dans le sens du moyen habile, c'est-à-dire qui vise au bonheur, à l'obtention de la félicité d'autrui, ou pourquoi pas aussi de soi, mais qui n'a rien de trompeur, en fait. Mais à l'extérieur, difficile de distinguer. Et puis, de l'autre côté, eh bien, la tromperie. En fait, dans tout ce que l'on voit ici, dit Lama, c'est une indication à observer avec grand soin celle ou celui qui se pose comme maître spirituel. Là, il y a un terme en tibétain, on parle de Dodon. Dodon, ça veut dire ce qui est utile pour les êtres, donc l'activité bénéfique pour autrui. Et cette activité bénéfique, elle se manifeste, alors qui que l'on soit, on peut être un tuktop, donc un grand accompli, on peut être un lama, un grand lama, petit lama, n'importe, c'est égal finalement. Donc il y a toujours cette idée d'une activité qui est, on pourrait dire, fondamentalement bénéfique et utile aux êtres.
Non.
Et quand on parle de cette activité altruiste, on y rajoute en général les quatre formes d'activité. C'est-à-dire on va considérer que cette activité peut prendre des formes différentes. Elle peut prendre des formes paisibles, des formes courroucées, des formes dites de subjugation, des formes dites de transformation. Manière de dire aussi que, eh bien, il n'y a pas toujours qu'une activité paisible qui permette d'agir vraiment pour le bien d'autrui et qu'elle peut prendre des formes évidemment variées.
Non.
Non, voilà, il peut y avoir des moyens courroucés. Et parfois, il peut y avoir une interaction entre maître spirituel et disciple où un tel disciple ou une telle disciple ne pourra finalement accéder à une certaine compréhension des choses qu'en utilisant pour elle eh bien, des moyens courroucés. C'est des choses envisageables. Pour d'autres, il n'y aura qu'une attitude très paisible et pacifique et qui permettra de faire comprendre quelque chose. D'autres, eh bien, ce sera une attitude, on pourrait dire, de subjugation. Non. Dans le sens d'une sorte de prise de pouvoir. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier. Mais d'autorité, on pourrait dire, par rapport à l'autre.
Non. de gruyère.
Et pour d'autres, ce sera vraiment par des, on pourrait dire, des biais extraordinairement variés que finalement, eh bien, l'action arrivera à son terme. Alors, c'est vrai que de l'extérieur, ce type de comportement, ils ne sont pas forcément considérés comme spirituels, parce que on ne distingue pas forcément ce qui est en train de se tramer derrière. Et là, c'est juste la forme que peuvent prendre ces activités. Et là, il me vient en esprit l'exemple d'une Namtar, c'est-à-dire un récit édifiant, qui met en scène un des disciples de Manjushri et qui s'appelle le prince Norozang, et qui raconte justement un moyen violent mis en œuvre pour faire que ce disciple, en l'occurrence, comprenne quelque chose. C'est une histoire qui raconte en fait que ce disciple, eh bien, il va s'en remettre à un très grand nombre de maîtres spirituels, une centaine même de maîtres spirituels. Non. Et donc, à un moment donné, il reçoit, ce Norozang reçoit une prophétie de Manjushri et qui lui dit, et il faut là maintenant t'en remettre à ton ultime maître spirituel qui s'appelle le roi Mai. Et pour aller rencontrer le roi Mai, il te faut aller dans la direction du sud, marcher, tu rencontreras le roi Mai. Alors voilà, l'histoire raconte un immense périple qu'il fait, il marche, et il finit par arriver un jour dans la capitale du roi Mai. Non. Et il demande, en arrivant dans cette cité, il demande où se trouve le roi Mai. Et on lui répond, les habitants lui répondent, qu'en fait, il est en train d'administrer la justice et d'accomplir l'activité d'un roi. Et on lui répond en disant, et pour certains, il est féroce, et pour d'autres, il est paisible, et pour d'autres, voilà. Et puis on voit qu'ils sont introduites là les différentes formes d'activité.
Non.
Et donc, il va vers le lieu où le roi Mai rend la justice, et puis là, il arrive dans un endroit qui est proprement effrayant. C'est-à-dire, et d'ailleurs, même dans la ville, il voit la police du roi Mai, qui sont tous aussi effrayants que les serviteurs du Seigneur de la mort. Et donc, quand il arrive sur le lieu où il rend la justice, il voit là, en fait, des scènes d'exécution. Et les gens sont attrapés, on leur coupe la tête, on les démembre, etc. Bon, il assiste à un cauchemar. Non. En même temps, dans le royaume, eh bien, en fait, dans ce royaume dans lequel il arrive, eh bien, les 10 actes négatifs sont complètement proscrits et il n'y a que des actes vertueux qui, par ailleurs, sont produits. Par contre, celles et ceux qui y contreviennent, alors justement, il y a ces scènes donc de démembrement, de châtiment, etc.
Mm-hmm.
Et à un moment donné, il voit carrément une espèce de monceau de cadavres qu'il décrit alors comme une espèce de montagne de cadavres. Il voit du sang qui coule comme des rivières de sang. Alors, et donc le prince Dorozang, il se dit en lui-même, il est complètement choqué. Et il se dit, mais donc, il faut d'abord vraiment s'imaginer que son périple, il est très très long, donc c'est une grande quête initiatique. Il est à la recherche du secret de la Prajnaparamita, c'est-à-dire de la vertu de sagesse transcendante, et il est enfin en train d'arriver là, vers son maître ultime, et il se dit en lui-même, mais c'est impossible, c'est pas auprès d'un tel assassin que je vais pouvoir recevoir les instructions définitives sur la sagesse transcendante. Il est désespéré, donc il se met dans un coin, il se met à pleurer. Et là, il entend une voix qui lui vient du ciel et qui lui dit, il te faut absolument t'en remettre au roi Mai. Et il arrive alors, il fait la démarche, il va à la rencontre du roi Mai et il entre dans le palais du roi Mai. Et quand il entre dans le palais du roi Mai, alors là, c'est tout le contraire, c'est-à-dire c'est une espèce de splendeur qui se déploie devant lui, tout est absolument magnifique, tout est fait de matière précieuse, il y a là, il devine la présence du roi Mai, il y a aussi des centaines, milliers peut-être de servantes ainsi que de reines qui sont toutes aussi plus splendides les unes que les autres, c'est une pure merveille. Et Norzong arrive et il est reçu, c'est-à-dire que le roi Mai est là et il l'attend en fait. Et il le reçoit. Et il lui dit, n'ayez aucun doute. Non. Et donc en fait, il est au cœur d'une vision, parce que là on le sent, on le comprend dans l'idée du déploiement. Il lui dit, est-ce qu'une personne qui vraiment n'aurait aucune disposition positive pourrait déployer de telles splendeurs? Et lui explique en fait que eh bien, tout ce qu'il a contemplé, il l'a contemplé à travers le jeu des illusions. Et que tout cela, en fait, par ailleurs, son royaume est paisible. Tous les êtres qui y vivent s'adonnent à la vertu, ont complètement abandonné tout acte négatif. Et tout ce qu'il a vu, en fait, est un jeu illusoire. À la fois, les cadavres qu'il a vus sont illusions, mais celles et ceux qui maltraitent d'autres sont eux-mêmes les tortionnaires illusions, et les torturés sont aussi illusions. Et tout cela n'est qu'illusoire. Il lui dit, la force de cette illusion, c'est que naturellement, tous les êtres du royaume, eh bien, ça donne à la vertu. Puis ensuite, eh bien, c'est toute une espèce de périple de Norzong à travers, on pourrait dire, un dédale de palais, car à l'intérieur de ces palais incommensurables, il y a une infinité de palais incommensurables. Et là, on devine que ce sont en fait des terres pures, parce qu'il y a des bouddhas dans ces palais, etc. Voilà, ça c'est une histoire, mais c'est une histoire qui, il y en a une grande quantité de ces histoires, mais qui disent en fait à leur manière le côté quasi inconcevable de l'activité éveillée qui est produite et qui peut prendre des formes absolument surprenantes.
Non. Non.
Voilà, alors même si peut-être maintenant on n'assiste pas à ce genre de choses, évidemment, mais en même temps, eh bien, il y a vraiment des aides tout à fait extraordinaires et qui, pour aider spirituellement leurs disciples, eh bien, vont utiliser des moyens qui parfois peuvent paraître très étranges. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle les tapkepa, c'est-à-dire les stratagèmes, on pourrait dire les moyens habiles et utiles. Mais maintenant, il y a aussi des escrocs qui vont regarder cela ou s'inspirer de cela et prétendre agir avec des moyens habiles. Et donc, on peut confondre. Non. Voilà, donc ainsi s'achèvent là les 10 possibilités de confusion. Ensuite, 10 choses sans erreur. Première chose, quand libre de tout attachement, on passe de l'état laïque à l'état, alors là, de moine, mais dans le sens de renonçant ou renonçante, évidemment, eh bien, sans foyer, hein, comme une espèce de renonçant errant, eh bien, l'on ne commet pas d'erreur.
Lama tomba gevichini naichini gola toi gendo kruvane manarvayis.
Quand on éprouve la plus haute estime pour son maître spirituel et qu'on se le représente comme se tenant constamment au-dessus de notre tête, l'on ne commet pas d'erreur.
Te hakundo?
Non. Ah, bon, c'est assez clair. Voilà, ici, Lama précise simplement le sommet de la tête, eh bien, c'est le signe de déférence parce que c'est considéré comme la partie la plus noble et la plus supérieure, logiquement, du corps. Donc, ce que l'on met au-dessus de sa tête, c'est une manière de manifester son respect. Non. En alternant l'écoute des enseignements, la réflexion sur leur sens et la pratique de ceux-ci dans la méditation, on ne commet pas d'erreur. Voilà, c'est l'idée de l'alternance, c'est-à-dire de temps en temps, oui, nous écoutons des enseignements, de temps en temps on y réfléchit, de temps en temps l'on s'adonne à la pratique méditative, et cette alternance entre ces différentes approches fait que nous ne commettons pas d'erreur. En ayant un point de vue élevé dans le sens d'une vue, d'une compréhension philosophique élevée, tout en adoptant une conduite humble, en accord avec nos voeux de conduite extérieure, on ne commet pas d'erreur. Là, l'idée, c'est que même si intérieurement notre vue, dans le sens de notre compréhension ultime, elle est telle que l'on comprend l'indifférenciation du cycle des existences et de l'au-delà du cycle des existences, où Nirvana et Samsara finalement sont réalisés d'une même nature, ce qui est une réalisation très profonde, dans notre activité, nous agissons avec la plus grande humilité.
Oui.
Voilà, il me vient, dit Lama, la pensée, la parole ou l'instruction en fait du maître Atisha. Vous avez peut-être tous entendu parler d'Atisha. Enfin, bon, bref. Et il dit, concernant l'humilité, faire en sorte que même l'eau ne passe pas sous soi. C'est-à-dire être tellement près du sol qu'il n'y a pas de place pour que l'eau passe sous soi, sous son corps.
Non.
Il utilise le terme masadzin. Et masadzin, ça veut dire s'en tenir au bas. D'où l'idée de l'humilité, être près du sol. Non. En fait, il y a aussi là une parole courante que l'on dit, dit Lama, qui dit que, en fait, être proche du sol est la demeure des vainqueurs. Dans le sens où l'humilité, en fait, n'apporte pas la jalousie et n'apporte pas la compétition. Alors, il y a un dicton. Alors, c'est un dicton, hein, dit Lama. C'est pas une parole du Bouddha, donc je précise. C'est un dicton, mais c'est un dicton qui est quand même, voilà, populaire, mais qui dit quand même bien les choses. Et c'est un dicton qui vient du Kham et qui dit, même s'il n'y a pas vraiment de risque d'heurter le ciel avec sa tête. Même s'il n'y a pas de risque d'heurter le haut du ciel avec sa tête, il est tout de même bien d'être légèrement en posture d'humilité. Même s'il n'y a pas de risque d'heurter le sol en étant proche du sol, marcher avec délicatesse est utile.
Non,
voilà, ça c'est des dictons populaires. Hein. Mais bon, il y a quand même des fois des choses assez vraies dans les dictons populaires. L'instruction ensuite, en ayant un esprit large, tout en s'en tenant fermement à ses engagements, eh bien, l'on ne commet pas d'erreur. Non. Ici, loyang, c'est l'idée de, littéralement, l'esprit très vaste. Et là, à ce propos, dit Lama, c'est vraiment être tout le contraire de l'étroitesse, c'est-à-dire vraiment avoir de l'espace, quoi, intérieurement. Non, mais ce qui n'est pas du tout contradictoire, justement, avec la notion de promesse, c'est-à-dire la promesse qu'on se sera faite à soi-même, où l'on se tient à, par exemple, la conduite qu'on décide d'adopter. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, d'avoir l'esprit ouvert. Non. Par contre, bien sûr, cela suppose ce qu'on appelle tenshi en tibétain, c'est-à-dire l'attention vigilante qui nous permet d'avoir cette conscience de la manière dont on agit pour justement ne pas contrevenir à nos engagements. Ensuite, si bien que doté d'un grand savoir, l'on n'a que peu d'orgueil, eh bien, l'on ne commet pas d'erreur. Si riche des enseignements reçus, on pratique diligemment, l'on ne commet pas d'erreur. Non. Oui, donc dans le sens d'amna, c'est vraiment les instructions libératrices, le fait de les mettre en œuvre, eh bien, c'est cela, oui, on ne commet pas d'erreur. Alors, le contraire, par contre, être riche d'instructions et ne pas les mettre en œuvre, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, en conjuguant une bonne réalisation à l'absence d'orgueil et d'attachement, l'on ne commet pas d'erreur non plus. En demeurant solitaire tout en étant capable de côtoyer la foule dans le sens de conserver l'expérience de la méditation que l'on a, eh bien, l'on ne commet pas d'erreur. C'est OK, hein, ça. Oui, voyez. Voilà, et ici, Dilama, eh bien, c'est aussi une manière de parler du contentement, c'est-à-dire que si l'on est, l'on vit comme un solitaire ou dans la solitude, comme en retrait, eh bien, savoir vraiment faire avec la situation qui est la nôtre, quelle qu'elle soit. Mais en même temps, être tout à fait capable de côtoyer la foule, c'est-à-dire d'être dans le monde, en fait. Hein, c'est cette possibilité d'être dans ces deux aspects. Si, sans être attaché à ses propres intérêts, l'on est habile à pratiquer le bien d'autrui, eh bien, l'on ne commet pas d'erreur. Voilà, ici c'est simplement l'idée de donc d'une action altruiste où l'on veille à ne pas dissimuler au fond de soi finalement notre intérêt personnel. Telles sont les 10 choses sans erreur. Oui, là, c'est l'idée de l'attachement à son intérêt propre, c'est-à-dire, bon, voilà, cette activité altruiste sans attachement à son intérêt propre est sans erreur. Voilà, et ensuite les 14 choses insensées. Chushi et Manachu le Mana. Voilà, les 14 choses. Non, non, c'est juste un petit gag comme ça, c'est rien de. Non, maman, il avait oublié une syllabe, il me dit, si j'en oublie une, t'as qu'à me dire laquelle j'ai oublié. Non, non, mais bon, bref, c'était pas ça. Ça changeait le sens. Non, voilà. Donc ici, les 14 choses ont le sens.
Tene melu tamne tambe chu chu metin pa ne rimbo chi leng do chi ne ton lu je pa tan ja te ton me so
la son. Voilà, alors la première des 14 choses insensées, avoir obtenu l'existence humaine dans le sens d'une précieuse existence humaine comme on en a parlé et ne pas se souvenir du saint dharma est aussi insensé que de revenir les mains vides d'un eldorado couvert de pierres précieuses. Oui, parce que ici, c'est la fameuse image de l'Eldorado du pays des trésors qui représente ici l'existence qui est la nôtre.
Et
ça dit quelque chose. Non. Et ça dit quelque chose de très important. Ça dit que dans notre existence, quelle qu'elle soit, mais là, cette existence qu'on a, nous avons dans nos mains la possibilité vraie de pouvoir atteindre l'éveil. Si nous voulons, là, à partir de cette existence, sortir du cycle des existences, atteindre l'état d'arahat, donc libre de tout état conditionné, nous pouvons le faire. Si nous voulons accomplir dans le sens de parvenir au bonheur, aux félicités des mondes humains, des mondes, des devas et des demi-dieux, eh bien pourquoi pas, et nous pouvons aussi le faire. C'est vraiment, dit Lama, cette idée du pouvoir total, dans le sens où nous considérons l'existence qu'est la nôtre comme l'absolu pouvoir d'accomplir ce que l'on veut. Et donc, en fait, d'où cette image de ce pays des trésors dans lequel nous sommes arrivés du fait même d'avoir cette existence.
Non.
Et là, si on va plus avant dans cette image et qu'on s'imagine être dans ce pays extraordinaire, dans ce lieu, cet Eldorado où il suffit de se baisser pour ramasser les pierres ou les trésors les plus précieux, eh bien nous pouvons à la fois emporter avec nous de ce séjour qu'est le nôtre le joyau qui exaucera tous les souhaits. Nous pouvons aussi nous emparer d'un diamant. Nous pouvons aussi prendre un joyau de moindre importance. En fait, ce que cela désigne, c'est la vraie possibilité que nous avons de nous servir de ce qui est à notre portée en fonction, eh bien, de notre seul souhait. Et là, l'image qu'il emploie, et pour dire, pour parler de la première de ces 14 choses insensées, et dire, eh bien, c'est vraiment, si là, alors que nous sommes dans cette existence, nous ne comprenons pas l'extraordinaire potentiel que nous avons et que donc nous ne nous en servons pas, eh bien, c'est à peu près comme arriver dans un Eldorado, avoir toute la richesse à notre portée et repartir les mains complètement vides.
Çimde cebane, cebane. Çimale marmele çoğa tanrati tombe sonra.
Non. Ensuite, étant engagé sur la voie du Dharma dans le sens, encore une fois, ici, d'avoir pris des vœux monastiques, et s'établir alors comme chef de famille, dans le sens s'établir dans une vie ordinaire, alors que nous avons pris ces vœux, eh bien, c'est agir comme le papillon qui se précipite dans la flamme.
Oh, bouté, marmé, là, tu en as ronzo, tu es de marais.
Non.
Maintenant, tu es sarpota, tu manches un bota, mais de voici, tu es de marais.
Non. Ici, cette image du papillon, dit Lama, ce n'est pas du tout pour parler d'une attitude suicidaire, parce qu'en fait, le papillon n'est pas suicidaire. Le papillon trouve que cette lumière est extraordinairement belle, il trouve que cette lumière sent extraordinairement bon, donc il y va avec une grande pureté d'intention.
Non.
Voilà, donc c'est évidemment un exemple donné ici, mais pour dire que, eh bien, si alors que l'on a fait un certain choix de vie, eh bien, que notre agissement va complètement à l'encontre de ce choix de vie initial, eh bien, même si ça peut nous paraître agréable, plaisant ou n'importe, il y a quelque chose là d'insensé. Vivre auprès d'un pratiquant du Dharma ou d'un maître spirituel et demeurer sans foi dans le sens de, voilà, sans attrait pour le Dharma, eh bien c'est comme mourir de soif alors qu'on est au bord d'un lac. Non, ça c'est clair.
Non.
Le dharma que l'on n'utilise pas comme antidote à la saisie d'un soi et aux quatre actes nuisibles principaux est dépourvu de sens, ce dharma, tel la hache abandonnée, inutilisée au pied d'un arbre. Non, là, ces quatre actes nuisibles, c'est par exemple le fait de tuer, voler, mentir ou avoir un comportement sexuel inapproprié.
Voilà,
l'image là, elle est claire de nouveau. C'est d'abord dire et revenir sur le fait que le dharma n'a de sens qu'en fonction de l'antidote ou des antidotes qu'il représente. Donc, pour nous affranchir de la saisie du soi, il sert à cela, le dharma. De la même manière, la hache, elle-même toute seule posée contre l'arbre, ne va pas trancher l'arbre. Il faut s'en servir pour couper l'arbre si l'on en a l'intention. Donc, d'où l'image.
Non.
Voilà, et donc l'instruction d'après nous dit recevoir les instructions orales libératrices sans les utiliser comme antidote, c'est un peu pareil qu'avant, aux émotions perturbatrices, est insensé comme de transporter malade un sac de remèdes sans les utiliser. Voilà de nouveau l'image. C'est-à-dire que le dharma est une médecine. C'est une médecine pour nos afflictions mentales. Donc, d'où l'image. Être un malade qui peut se soigner avec les médicaments qu'il porte sur le dos sans s'en servir, bien, ça ne sert à rien de les transporter s'il ne s'en sert pas.
Mais tu vois, là, ne rire que n'y a pas. Ne t'amène à ce que n'y a pas. Mais ça, y a
rien. Non. Oui, parce que ces médicaments représentent bien, eh bien la médecine utile pour chacune des maladies dont nous souffrons.
Tu dis, Marron, que tu es malade, hein?
Non.
Mais tu es malade.
Voilà. Et si l'on a ces médicaments qui pourtant sont complètement appropriés et que nous les transportons dans notre dos sans s'en servir, logiquement c'est insensé.
Non.
Voilà. Donc de la même manière, eh bien, le dharma est, encore une fois, un ensemble d'antidotes ou de médecines et qui, là, nous permettent de nous libérer de ce dont on souffre. Donc si l'on ne s'en sert pas, il n'est pas utile.
Du tout de ma crève, tanye la, que j'en vois ne, n'est-ce qu'à ton dieu pas tendra de tomber son.
Non. Ensuite, celui qui, habile à utiliser à user des métaphores, est incapable d'en tirer lui-même parti, est insensé comme un perroquet récitant des prières. Oui, parce qu'ici, dit Lama, il y a l'idée d'un mûrissement. Le dharma est quelque chose qu'on doit faire mûrir intérieurement dans notre cœur. On est de nouveau dans l'idée déjà évoquée d'antidote, c'est-à-dire que le dharma doit mûrir dans le sens de l'antidote. Voilà, donc ici ça nous indique de nouveau que ce qu'il nous faut abandonner, abandonnons-le. Ce qu'il nous faut accomplir, accomplissons-le. Et ce qu'il nous faut mettre en œuvre, mettons-le en œuvre. Okay. Et dans ce cas, plutôt que simplement dire les choses ou parler des choses, mais ne pas les faire.
Voilà,
donc d'où l'image du perroquet, parce que le perroquet peut aussi apprendre à réciter des mantras, hein. Il peut dire Om Mani Padme Hum, mais à l'instant même où il dit Om Mani Padme Hum, puis il voit un insecte qui passe devant lui, Om Mani Padme Hum, hop. Non. Voilà, ensuite faire offrande du produit d'un vol ou d'une escroquerie est insensé. C'est comme si on fait rétrécir en le lavant un vêtement précieux, on essayait de lui redonner sa forme en l'étirant.
Non.
Non. Voilà, de nouveau, c'est là l'image d'un comportement insensé. On prend l'exemple là du vêtement. En tibétain, lopa, pour dire, c'est une espèce de peau, on pourrait imaginer un astrakhan, pourquoi pas. Et puis, ben voilà, si on le met dans l'eau en voulant le laver, ou bon, ça va être de pire en pire. Plus on le fait, plus ça devient n'importe quoi.
Simpina, lopa, tienne, conjole, chopane, puis chatienne, mal tervatandrati tombe.
Non. Nuire à d'autres êtres dans le dessein de faire offrande aux trois rares et sublimes est aussi insensé que d'offrir à une mère la chair de son enfant. Là, c'est clair. Modifier son comportement dans le sens de pratiquer la patience, supporter l'adversité, mais tout cela dans la seule fin d'accomplir, disons, dans cette vie, un but finalement égoïste, dans le sens de immédiat, est insensé. C'est un peu comme le chat qui guette la souris. Alors, extérieurement, il a l'air paisible, mais intérieurement, en fait, il est mu par le seul désir de la tuer. Vous comprenez ça, cette image ? Hein, voyez ? Ensuite, accomplir une pratique du dharma de grande ampleur en vue d'obtenir du respect et une grande renommée, bonne renommée, est aussi insensé que de vouloir échanger un joyau qui accomplit tous les souhaits contre simplement des vêtements ou de la nourriture. Ensuite, ayant reçu de nombreux enseignements, mais laissé son esprit dans un état ordinaire et se montrer insensé comme un médecin qui demeure affligé d'une maladie, qu'alors il peut lui-même guérir. Ensuite, avoir acquis une grande érudition en matière d'instruction libératrice sans faire vraiment l'expérience de la méditation est insensé, comme pour un homme riche de ne pas utiliser la clé de son trésor. Ensuite, expliquer à d'autres le sens de pratique dont on n'a pas soi-même réalisé le sens et se montrer insensé comme l'aveugle qui se mêlerait de guider d'autres aveugles. Ensuite, si l'on tient pour ultime des expériences survenues dans la méditation grâce à l'emploi de moyens adroits, sans chercher le sens de la véritable nature de tout phénomène, eh bien, on est aussi insensé que celui qui confond le laiton, c'est-à-dire c'est un métal jaune, avec l'or.
Penna, dejo tava. Dejo tava, que nyam la ten chouta. zoa non jésus.
Par exemple, le fait de prendre pour sublime, non, prendre pour sublime ou saisir dans le sens de vouloir s'approprier une expérience de bonheur en croyant que c'est là quelque chose d'une grande portée. Oui, parce que on a parlé de ces expériences méditatives qu'on peut faire. On peut faire des expériences de félicité, de vacuité, mais ce ne sont que des expériences. Donc il n'y a pas non plus de nécessité à les considérer comme autre chose que des expériences. Non. Voilà, et là, ce sont donc les 14 choses insensées. Ensuite, les 18 fautes. Non, voilà, ensuite, les 18 fautes du pratiquant du Dharma. Non. Se retirer dans la solitude, mais demeurer préoccupé des affaires du monde et des préoccupations ordinaires, eh bien, dans ce cas-là, est une faute pour ce pratiquant. Étant censé servir de guide à de nombreuses personnes, mais en fait réaliser ses propres désirs, donc personnels, est une faute. Ça peut parfaitement s'appliquer aussi en fait au domaine de la vie ordinaire. C'est-à-dire, c'est pas forcément un maître spirituel, ça peut aussi être n'importe qui est responsable d'un grand groupe de personnes et qui poursuit son intention propre. Ou c'est son intérêt propre plutôt. Non, voilà, l'instruction d'après nous dit être versé dans les enseignements du Dharma et ne pas s'abstenir des actes nuisibles est une faute pour le pratiquant du Dharma. Avoir reçu d'importantes instructions libératrices mais laisser son être dans un état très ordinaire est une faute aussi pour le pratiquant du Dharma. Bien que manifestant une conduite éthique pure, mais conservée intérieurement, on pourrait dire de grands désirs, est une faute pour le pratiquant du Dharma. Et ici, Dilama, c'est l'idée du renonçant à l'extérieur qui, en fait, intérieurement, est très attaché aux richesses, par exemple. Hein. Et donc, dans ce cas, effectivement, cela contrevient.
Nyamto zonla rondu tamr rondu matarvane sonre.
Naso.
Rondu matarvane chupensons.
Bien qu'ayant obtenu une bonne réalisation, mais dans le sens de Nyamto de nouveau, avoir des expériences et des réalisations qui sont excellentes, mais d'un autre côté, être incapable de maîtriser son esprit est une faute.
Nyamta to parva.
Là, ça.
추고 나 쇼네 추고 쇼네 메추제 착동 마뽕바네 추베통
non avoir franchi la porte du dharma mais ne pas se débarrasser de l'attachement et de l'aversion d'un individu qui ne serait pas engagé dans cette pratique spirituelle est une faute.
Ta mechu shorne wa mechu shorne shorte sa chu chene dan jigde wa chu pon ne wa tene ton bu chu chele ta sa chu wa
na so
ta bu chu chene chene sonam bie chaba ma ting pa ne chu pe to sonam bie chaba am ma ting pa am jigde je chaba lu ma tong
Non. Alors, se consacrer au dharma mais s'avérer incapable de renoncer aux activités ordinaires, dans ce cas-là, de nouveau, est une faute pour ce pratiquant ou cette pratiquante.
Dexon?
Oui, non, Dexon, non. C'est OK? Oui, vous comprenez, je pense. C'est assez clair. Oui? Oui, oui. L'aversion des non-pratiquants. Non. Tata Tin Lama Latini, Chuguru Shum Netini, Michugi, Chagdang, Mapang, Mapang Pani, Chupet Sangre, Tene, Yentier Tene,
Haso, Chugo Jo Senata, Tombe Chuja Goda, Nombu, non, Tombe Chuja Goda, Chubak, Chalayanju, Rava,
non,
Tene, Jone, Michuja, Michuja, and Jitimi Java, Rava,
Larella.
Chugoli chotsadu, dubju karis and garonga, tupa, somba, gomba,
Bon, ici, donc tout d'abord on parle de Chugol. Et Chugol, c'est la porte du Dharma. Ça veut dire, en fait, on a initié une démarche. Et la démarche d'un pratiquant, d'une pratiquante du Dharma, a priori, c'est de s'adonner ensuite à l'écoute, à la réflexion, à la méditation.
Pendant Gomba Tavina,
non,
Gomba Zena, you embody.
In
a Gomba Tantola, Tadanga, the Chuzo, Gomba, the poor, that you know, Gomba Cigarette.
Voilà, bon. Au Tibet, on parlait de monastère, monastère qui en fait littéralement signifie lieu retiré. Là, en Occident, on parle pas de monastère, on parle de centre du Dharma ou de lieu du Dharma.
Ah, tu Gomba Tantola, gâché, Tanta. Sotelke, Dombasson King Gomba. Angachi, Nakwa Gomba, Gachi, Anneg Gomba la Sopayore.
Non. Maintenant, au Tibet aussi, et d'ailleurs ici pareil, et ces lieux de pratique spirituelle peuvent à la fois être des lieux pour les moines ou pour les nonnes, mais aussi pour ce qu'on appelle les Ngapa, c'est-à-dire les yogis ou yogini.
On t'a dit Gomba Tantol Jotta, Leka Samyore. Dis Samde.
Et donc cela suppose, au sens propre mais au sens figuré aussi, mais qu'à partir du moment où nous vivons dans un lieu spirituel, comme un monastère par exemple ou un centre du Dharma, il y a ce qu'on appelle les trois roues. Les trois roues, c'est les trois types d'activités. L'une ou l'autre de ces activités, nous devons nous y adonner. Il n'y a pas finalement d'autre possibilité. Voilà, c'est ce qu'on appelle les trois roues.
Kholosam sena ta yon mena lobjong jie gore.
Soit étudié.
Yon mena gom gore.
Soit médité.
Yon mena ta ngaron gombe leka le gore.
Ou alors, servir la communauté. Travailler, servir la communauté.
Tisam tchik majie wala tga sa tani dechong yon mena.
Voilà, donc ce qui veut dire que ce n'est pas un lieu où on peut simplement y être, sans s'adonner à l'une ou l'autre de ses activités. Non. Donc ça, c'est le travail spirituel, on pourrait dire. Non, voilà, les trois roues. Donc, ce que ça veut dire, là, au sens très pratique, c'est-à-dire que si on s'engage dans une vie spirituelle, alors de nouveau... Non.
Non. dongyo da tani, yerdong dang chado che na tani, mechu re mazo sa chu ma re.
Non, voilà, donc, parce que la différence qu'on fait ici, d'ailleurs, ensuite on parle de Mitchu, on pourrait dire le dharma mondain ou le dharma des hommes et le dharma des dieux. C'est une distinction qu'on fait entre une activité, un dharma dans le sens d'une conduite, une conduite ordinaire ou une conduite spirituelle, hein, pour vraiment le traduire comme ça. Et là, on parle de chadang pour dire à la fois l'attachement et l'aversion, dans le sens où une conduite ordinaire, eh bien, elle est toujours faite en termes de préférence. C'est-à-dire, soit j'agis parce que finalement j'y ai intérêt, et puis je mets ça de côté parce que là, je mets ce qui ne me plaît pas, etc. Donc on fonctionne entre j'aime, j'aime pas tout le temps, ce qui est le contraire même d'une activité spirituelle. Et là, ce qu'il nous faut voir, alors de nouveau, au sens propre ou figuré, c'est que l'entrée dans une vie spirituelle, qu'elle soit dans un lieu ou qu'elle soit intérieure, veut dire que petit à petit, eh bien, tout cela dont il est question, c'est-à-dire attachement, aversion ou ignorance, eh bien, l'on a pour but de faire que cela décroisse de plus en plus jusqu'à l'épuiser complètement. Mais, alors, aucune possibilité de voir ça disparaître d'un coup d'un seul. Non, alors là, c'est sûr. Hein, c'est vraiment que l'exercice répété sur la longueur, en prenant vraiment, en ayant de la patience et de la persévérance, qui va faire que petit à petit, tranquillement, dit Lama, eh bien, cela va disparaître. Non, et puis de la même manière, dans un autre mouvement, ascendant celui-ci, eh bien, on va développer chaque jour, lentement, les qualités d'amour, de compassion, d'écoute, de réflexion, de méditation, et puis petit à petit, faire que cela s'élève. Et là, c'est un mouvement naturel. C'est-à-dire, plus nous développons ces qualités spirituelles, plus d'un autre côté, eh bien, l'on voit disparaître tous ces défauts. Vous voyez ? Voilà, ensuite, donc, s'étant consacré au dharma, mais s'avérer incapable de renoncer aux activités de ce monde, ça revient un peu à cela, est une faute aussi pour le pratiquant du dharma. Non, oui, c'est vraiment l'idée de ne pas abandonner, en fait. Non, oui, il y a vraiment l'idée d'activité ordinaire qu'on ne lâche pas. C'est-à-dire, à la fois, on veut vivre une vie spirituelle, puis en même temps, on ne lâche pas une activité qui, on pourrait dire, entre en contradiction, en fait. Ensuite, avoir compris le sens des enseignements, pas seulement d'un, mais des enseignements, et ne pas le mettre en pratique, est aussi une faute. Avoir fait la promesse de pratiquer ou de s'en tenir à une pratique et ne pas s'y tenir est une faute aussi. Quoique n'ayant pas d'autre préoccupation que la pratique du dharma, mais ne pas pouvoir stabiliser sa conduite, est aussi une faute pour le pratiquant du dharma.
sommete bakan labda.
Tela tena tene çü çü gi çava çipur dönyen tene yunayan yunayan ta
çöpa somma sopa sendo
la so yunayan tene çomat
Non, 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 non,
non, non, non, ancré fermement, on pourrait dire. Oui, donc on a beau penser vouloir s'adonner complètement à la pratique du Dharma, mais en même temps, intérieurement, on ne la stabilise pas.
Non.
Ensuite, bien qu'obtenant nourriture et vêtements en suffisance, en avoir encore le souci est une faute aussi.
Tu racontes quoi?
Non, seulement. Non, ça, oui, c'est clair.
Gédurke n'est pas tant. Cela, tout pas n'est, tu peux t'en y être. N'est pas, c'est nata, choc. Choc, ça n'est pas.
Là, ça. Voilà, épuisé par un temps, un emploi du temps conséquent, le pouvoir de ses vertus à tenter de guérir des malades ou combattre la stérilité est une faute pour le pratiquant du Dharma. Alors, de nouveau, là, c'est très contextuel.
N'est pas cela, n'est la peine à taper du bout.
Non,
c'est ça.
Là, c'est
ça. Là, c'est ça. Que tu as nommé la boucaille, on n'est pas de ce que pas travailler à taper du bout, le mettre du bout, tu dis que tape dans ce yore, va.
Là, c'est ça.
Tape dans mine dans ce yore.
Non. Voilà. Donc là, ici, c'est mettre le doigt sur un travers possible. C'est-à-dire, on parle de nupa. Et nupa, c'est le pouvoir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, évidemment, du fait de la pratique spirituelle, un pouvoir qui est obtenu. Mais si ce pouvoir, eh bien, nous le comprenons comme s'il s'agissait simplement de devenir une espèce de guérisseur, mais c'est-à-dire en laissant de côté toute la dimension de ce pouvoir, eh bien, dans ce cas-là, il y a quelque chose d'erroné.
Non,
Voilà. Là, en fait, pourquoi l'auteur dit cela? Parce que, d'autant plus au sein du Vajrayana, vous allez trouver toutes sortes de rituels. On va trouver des rituels pour les longues vies. On va trouver des rituels pour obtenir des richesses. On va trouver des rituels en quantité pour, par exemple, ici, ce qui est mentionné, Siou, c'est un cas de figure assez particulier, où, par exemple, une femme met un enfant, quoi, a un enfant, cet enfant meurt très peu de temps après sa naissance, puis ensuite, d'une manière récurrente, chaque fois, elle accouche d'un enfant qui meurt. Et donc, il y a des rituels particuliers pour contrecarrer ce genre de choses. Donc, bref, pour dire qu'il peut y avoir, donc, dans tout ce corpus de rituels, des tas de rituels qui peuvent nous faire perdre de vue le but ultime de la pratique et n'en faire finalement qu'un ensemble, on pourrait dire un peu de magie, en fait. Hein.
Ben, Dikim bata zola tene ki zukim meyi chekat seyandabu.
La so.
Tona chekat tene.
Non.
Sobdeya. Non. Zume sandeke chekat seyandabu.
Non.
Tene ke tene no pa.
D'ailleurs, Lama le mentionne en parlant de Tcheka, qui est le terme pour dire par exemple les sorts. Hein, on peut jeter des sorts, c'est toute la dimension de la magie. Et donc les sorts qui seront jetés soit par des individus, soit par des entités, etc. Et donc du coup répondre à ces sorts en contrecarrant les sorts, etc.
Il y a
vraiment une grande quantité, vraiment considérable de rituels qui peuvent être conçus. Bon, et qui se conçoivent d'ailleurs pour des raisons pratiques, parce que tout à coup quelqu'un, du fait de son comportement ou du fait qu'il aura manqué de respect à une entité ou du fait qu'il aura sali par exemple une source sacrée ou là vivrait par exemple un naga, une force tellurique, dragon, bref, il peut y avoir pour de multiples raisons des ennuis, des obstacles, et donc il y a aussi toutes sortes de recours à des rituels pour contrecarrer tous ces problèmes multiples et variés qui peuvent surgir. Donc l'idée, c'est là finir par, on pourrait dire, utiliser son éventuel pouvoir plus que de cette façon-là, c'est-à-dire dans cette visée-là aussi, dans cette optique-là. Et dans ce cas, eh bien, réduire ce pouvoir-là ou cette pratique spirituelle, en fait, à ce niveau pratique-là, ce qui est une faute du point de vue spirituel. Quoi, disons, c'est un défaut plutôt. Ensuite, dévoiler des enseignements profonds en échange de nourriture ou de richesse est une faute aussi. Oui, bon là c'est très clair. Si cela devient une occasion d'enrichissement que de vendre des instructions libératrices, c'est une faute. S'employer à publier ses mérites et à rabaisser autrui est une faute aussi.
Quoi?
Non. Non. Ensuite, donner à autrui des instructions, donc spirituelles évidemment, alors que l'on est soi-même en désaccord avec le dharma, eh bien c'est une faute. Non. Ne pas pouvoir demeurer seul sans pour autant être capable de s'accommoder de la présence d'autrui est une erreur aussi. C'est une faute pour un pratiquant du dharma. Il ne peut ni rester seul, ni rester avec les autres.
Non,
ça fait penser une fois à un échange entre Milarepa et Rechungpa. Et Milarepa lui dit, bon, pour moi, tout me convient, mais pour un type comme toi, rien ne convient jamais.
Rechungpa,
ça c'est tout l'échange entre Milarepa et Rechungpa, hein, qui est pourtant un immense disciple de Milarepa, mais ça n'empêche ce type d'échange. Et donc à un moment donné, Rechungpa lui dit, c'est aussi un peu l'orgueilleux hein, dans cette histoire-là. Donc il lui dit, mais c'est d'extraordinaire qualité. Et vous, Rinpoche, vous avez évidemment beaucoup de qualité. Donc, mais pourquoi on est obligé de rester dans la montagne alors qu'il suffirait qu'on ait demandé l'aumône et puis on vivrait bien quand même. Et c'est là où il lui répond comme ça, et puis il lui dit, oui, bien sûr, mais pour quelqu'un comme toi, finalement, rien ne va jamais vraiment. Alors que pour quelqu'un comme moi, bah, tout va, finalement. Donc, écoute, si ça ne va pas, bah, vas-y. Ensuite, ne pas savoir résister au bonheur, mais pas non plus endurer la souffrance, eh bien, est aussi une erreur. C'est là une faute. Et ne pas savoir vivre le bonheur et ne pas savoir vivre la souffrance, on pourrait le dire comme ça aussi, eh bien, dans ce cas-là, c'est erroné. Bien sûr, pour un pratiquant, une pratiquante du Dharma, il y a cette idée d'être capable, en fait, de supporter les adversités. Et d'ailleurs, d'être à l'aise dans les adversités. Et parfois même d'être d'autant plus attentif quand les choses sont faciles. Là, il y a une forme de méfiance à avoir quand les choses sont très faciles, excessivement faciles ou heureuses, mais dans le sens de facile. Il peut vite y avoir toutes sortes de besoins, de nécessités qui viennent se développer et qui n'ont pas lieu d'être. Finalement, pour un pratiquant, une pratiquante du Dharma, quand il est dans une situation qui n'est pas toujours complètement idéale, même matériellement d'autant plus, finalement, c'est pas si néfaste, parce que ça lui permet de toujours garder une forme de vigilance et de stabilité.
Mais
bien sûr que là, l'idéal, et c'est ça l'idéal, c'est finalement faire feu de tout bois, en fait. C'est-à-dire, si les choses vont bien, ça va. Si les choses vont pas bien, ça va. Et telles sont donc les 18 fautes du pratiquant du Dharma.
Voilà,
je rappelais juste que c'est 17h. Voilà, donc dans ce cas-là, on va s'arrêter là.